Dans le précédent chapitre du roman Céleste, ma planète de Timothée de Fombelle, on apprend que le narrateur se rend chez Céleste pour prendre des nouvelles de la jeune fille. Voyant qu'elle est très malade, il décide d'appeler sa mère qui travaille chez Industrie pour que la jeune fille soit emmenée dans le meilleur hôpital de la ville.
Hé, on me secouait par l'épaule. Vous êtes encore là ? C'était la surveillante. Vous croyez que c'est l'heure des visites ? Gronda-t-elle. Sans lui laisser le temps, je me suis précipité vers la chambre 221. La porte était entrouverte. Dans le lit de Céleste, il y avait une très vieille dame, toute fripée, avec un filet sur les cheveux. Clairement, ce n'était pas Céleste. Ou bien, c'était plus grave que je ne pensais. La surveillance est entrée essoufflée. On a libéré la chambre. Votre amie ne reviendra pas. Elle est en observation prioritaire tout là-haut. Je ne peux pas la voir. Non. En sortant, je me suis excusé auprès de la dame qui était dans le lit de Céleste. La surveillante m'a dit « Ne vous excusez pas, elle est sourde, la grand-mère. » C'est le genre de phrase qui m'énerve. Elle a ajouté « Ça doit être quelqu'un, votre petite fiancée, pour être en observation prioritaire au dernier étage. » Elle me disait ça avec un sourire forcé et un clin d'œil, en penchant la tête comme si j'avais pris de l'importance en quelques minutes. Je n'aime pas ça non plus. Je suis rentré chez moi, inquiet. Comment aller Céleste ? Assis dans le canapé, j'ai pris la carte que m'avait donnée le médecin dans l'hélicoptère. Il m'avait juste dit « N'hésite pas à m'appeler ». J'ai composé le numéro sur le téléphone. « Oui, c'est moi. Comment va Céleste ?» Silence au bout du fil. « Vous m'entendez, Doc ?»« Je t'entends, mais ne t'occupe plus d'elle. Ce sera mieux pour toi. »« Vous êtes fou. Oublie Céleste. » C'est un conseil d'ami. Il a raccroché, j'ai rappelé. Où est Céleste ? Dites-moi où est-elle. Il parlait très bas. Écoute, je te jure que je ne mens pas. Je prends des risques en te répondant. Il faut que tu oublies cette fille. Encore une fois, un vrai dialogue de film. Mais quand j'ai rappelé, il n'a même pas décroché. J'ai téléphoné à l'hôpital. Hôpital Industrie, bonjour. Je voudrais joindre la personne hospitalisée sur le dossier 66-400. Un instant. La standardiste parlait comme une hôtesse de l'air. J'entendais le bruit du clavier de son ordinateur et une petite musique pour me faire attendre. J'aurais préféré entendre en silence. Monsieur ? Oui. J'ai vérifié. Il n'y a pas de dossier 66-400. J'ai avalé ma salive. Elle a quitté l'hôpital ? Non, monsieur. Elle n'y est jamais entrée. Comment ? Je vous dis que ce dossier n'a jamais existé. J'ai laissé tomber le téléphone. La voix d'hôtesse de l'air continuait à chuchoter des formules de politesse. Je suis resté allongé quelques minutes sur le canapé. Ma tête tournait un peu. J'ai alors passé le coup de téléphone de la dernière chance. « Gwanda, passez-moi ma mère. »« Mon pauvre petit, ce n'est pas le moment. Le conseil d'administration vient de commencer. Elle te rappellera demain. »« Ça va mieux, mon chéri ?»« Gwanda. » Passez-moi ma mère ou je casse tout dans son appartement. Voyons, mon chéri. D'un coup de pied habile, j'ai fait voler le vase en porcelaine vers la vitrine de verre de Bohème. Ça a fait un bruit de super bingo dans une machine à sous. Je tenais le téléphone bien en l'air pour que Gwanda ne rate rien. Passez-moi ma mère. Une minute plus tard, ma mère était au bout du fil. Maman, où est Céleste ? Calme-toi. Tu perds la tête. De qui parles-tu ? Céleste, où est-elle ? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Qui est Céleste ? La fille qu'on a amenée à l'hôpital. Quelle fille, mon garçon ? De quelle fille parles-tu ? Repose-toi, tu es fatigué. Oublie tout ça. Cette fois, c'est le téléphone que j'ai envoyé contre la baie vitrée. Il a traversé le carreau, je ne l'ai plus jamais revu.
2 ans plus tard, j'étais dans le petit ascenseur brun que balance du 330. J'avais fait le même coup au gardien du parking. L'ascenseur m'a semblé plus long que jamais. Cette fois, pour me protéger de la pollution, j'avais noué mon gilet autour de ma bouche et de mon nez comme un bandit de grand chemin. En grimpant sur la terrasse, je ne sentis même pas la fumée qui m'entourait. J'ai couru vers l'abri où vivait la famille de Céleste. J'ai ouvert la trappe rouillée. Pas de lumière, personne pour répondre à mes appels. À l'intérieur, ni matelas, ni rien, aucun des petits meubles que j'avais vus l'avait, rien. Je me suis laissé glisser sur le long du mur accroupi et je... Que se passe-t-il, Céleste? Est-ce que j'avais rêvé? Se pourrait-il que mon bonheur n'ait jamais existé?
Je suis reparti. J'avais mal à la tête. Le dimanche soir, les galeries commerciales de la ville ferment enfin pendant quelques heures. Il y a moins de sacs en plastique qui se promènent. Quelqu'un jouait de la clarinette. Je me suis arrêté pour l'écouter. Il était devant un kiosque à journaux. La musique me déchirait le cœur. Ma mère avait raison. J'étais fatigué. Mes genoux tremblaient un peu. J'allais rentrer chez moi me coucher, oublier un moment ce cauchemar. Je repensais à la maladie, à l'hélicoptère, au sourire des médecins, au sauvetage de Céleste. Tout cela ne ressemblait pas au réel. C'était trop dur et trop beau à la fois. Et Céleste? Comment croire dans ce monde qu'une Céleste existait? Je vais dormir. Le lendemain, j'aurai les idées plus claires. Je reprendrai ma vie là où je l'avais laissée. Le matin d'avant Céleste. Mais au moment d'abandonner mon clarinettiste, une image a attiré mon regard. Là, sur le kiosque. J'ai cessé de respirer. Une forme noire sur l'affiche d'un journal épinglé sur le mur. Comme une grosse tache d'encre. La forme d'un cœur un peu grignoté. J'ai fermé les yeux et je les ai rouverts. La tache noire était toujours là. Céleste. C'était exactement la forme que j'avais vue sur le front de Céleste. J'ai à nouveau cligné des yeux. La musique s'était arrêtée. Je me suis approché de l'affiche. Il y avait un sous-titre sous la tache. Amazonie, l'adieu. J'ai pris une grande inspiration. J'avais déjà vu cette image. Le dernier hectare de forêt d'Amazonie. Pas plus grand qu'un petit bois. Vu du ciel, il n'y avait plus que ce cœur rogné. On avait entouré de barbelés ce dernier coin de forêt. Le musicien a dit dans mon dos. Le pire, c'est que si c'était une personne, on trouverait le moyen de la sauver. Je me suis brusquement retourné. « De qui vous parlez ?» Il a laissé passer un instant avant de répondre en montrant l'affiche. « De la planète. Si c'était une personne, on ferait tout pour la sauver. » Il y avait des phrases toutes simples qui changent des vies. J'ai serré le musicien dans mes bras et je me suis mis à courir. Je n'avais jamais couru aussi vite. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement et que la lumière a jailli, j'ai immédiatement tourné les yeux vers le sac de toile que j'avais laissé tomber là en entrant le matin. J'ai ramassé le sac et je l'ai ouvert. J'ai sorti l'atlas que je voulais offrir à Céleste. C'était mon atlas préféré. Un petit livre pas cher d'une centaine de pages. Il s'appelait Atlas d'un monde fragile. À l'intérieur, il y avait l'enveloppe que m'avait confiée la surveillante. C'était ça que je cherchais. Cette enveloppe noire. Je savais que j'avais oublié de la rendre. En vidant l'enveloppe sur la table, j'ai découvert des photos. Une dizaine de photos. Elles montraient la peau de Céleste. Son bras, son cou, ses jambes. Il y avait des taches un peu partout. Sur cette peau si fine, si douce, des taches sombres se dessinaient. La peau était rongée. Il y avait aussi une photo de son visage en entier. Elle était magnifique. Elle souriait au médecin qui la photographiait. J'ai trouvé le gros plan de son front. J'avais raison. C'était exactement la forme de l'Amazonie décimée. Une autre photo a attiré mon attention. Sur l'épaule de Céleste, la peau paraissait pelée et dessinait nettement les contours de... J'ai ouvert l'atlas et tourné fiévreusement ses pages. L'article ! D'un coup d'œil, j'ai comparé la photo et l'atlas. Ma main tremblait. Sur l'épaule de Céleste, on observait la fonte de la banquise de l'Arctique. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai tout compris. La désertification de l'Afrique, l'immersion des côtes indiennes, toutes les catastrophes écologiques du monde apparaissaient sur le corps de Céleste. Chaque coup porté à notre Terre était reçu par Céleste. Céleste ne souffrait de rien d'autre que de la maladie de notre planète. Elle allait en mourir à petit feu. Son sang devait être pollué comme les mers et les rivières, et ses poumons comme le plafond de fumée de nos villes. J'ai pris ma tête dans mes mains, la lumière se faisait d'un coup dans mon esprit. Au fil des analyses et des radiographies, les médecins du groupe Industrie avaient fait la même découverte que moi. Ils avaient compris les conséquences de cette découverte. Si quelqu'un apprenait qu'une fille de 14 ans vivait à chaque instant ce que l'on inflige à notre planète, si cette nouvelle se répandait, si le monde en était informé, plus rien ne serait comme avant. Et la première victime de cette prise de conscience serait cette immense société qui polluait le monde entier et dont le nom clignotait en haut de la tour. Industrie. Révéler la maladie de Céleste, c'était signer l'arrêt de mort de l'entreprise. Il ne leur restait plus qu'une seule issue. Faire disparaître Céleste. Si c'était une personne, m'avait dit le musicien, on trouverait le moyen de la sauver. Pour moi, ce n'était pas seulement une personne. C'était la fille que j'aimais. Alors j'allais trouver. C'est à ce moment qu'on a frappé à la fenêtre de mon appartement. J'ai levé les yeux vers un revenant. Brice !